de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'arbre suivante, magazine culturel, apprendre l'indonésien. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Ce soir avec moi, Oudri. Je vais vous présenter quelques événements importants en Indonésie et au monde. Entre autres, la rencontre entre président Joko Widodo et Moon Jae-in a abouti à 3 accords. Le ministre du Commerce dirige la mission commerciale indonésienne en Corée du Sud. 3 choses à faire face à la récession, a déclaré Jokowi au sommet ROK ASEAN. Le ministre de l'Agriculture enregistre des exportations des produits d'élevage vers le Japon et le développement du tourisme à Borobudur doit renforcer la coordination. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. La rencontre entre président Joko Widodo et Moon Jae-in a abouti à 3 accords. Les présidents indonésiens Joko Widodo et sud-coréen Moon Jae-in ont tenu lundi une réunion bilatérale à Busan, en Corée du Sud. Lors de cette réunion bilatérale, ils ont assisté à la signature des 3 accords signés par l'Indonésie et la Corée. Les 3 accords signés étaient l'achèvement d'une négociation de partenariat économique global, CEPA, entre l'Indonésie et la Corée, des accords sans visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, et le troisième était un mémorandum d'accord sur la coopération technique pour le transfert et la construction de la capitale. La réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le président Moon Jae-in a été également assistée, entre autres, par le ministre coordinateur des affaires économiques Erlangga Hartanto, le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement Luhut Binsar Panjaitan et la ministre des affaires étrangères Retno Marsudi. Le ministre du Commerce dirige la mission commerciale indonésienne en Corée du Sud. Le ministre du Commerce Agus Suparmanto a effectué une visite de travail à Busan, la Corée du Sud, et a dirigé la mission commerciale indonésienne ayant pour objectif de renforcer la coopération et les relations commerciales entre les deux pays du 25 au 27 novembre. Dès le début de sa visite de travail, le ministre a accompagné le président indonésien Joko Widodo au sommet commémoratif de 30 ans de coopération entre l'ASEAN et la Corée du Sud à Busan du 25 au 26 novembre. En marge du sommet ASEAN-Corée du Sud, le ministre du Commerce Agus a signé la déclaration commune sur la conclusion de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée du Sud avec le ministre sud-coréen du Commerce, Yoo Myung-hee. Trois choses à faire face à la récession, a déclaré Jokowi au sommet ROK ASEAN. Le président Joko Widodo a déclaré que les pays de l'ASEAN et la Corée devaient faire trois choses pour faire face à la récession économique et aux défis mondiaux à venir. Cela a été dit par le président Joko Widodo lors d'un discours prononcé lundi au sommet des PDG de la République de Corée ROK ASEAN à Busan, en Corée du Sud. Il espère que les pays de l'ASEAN et la Corée peuvent faire face à divers défis et doivent faire une percée pour que l'économie de la région ne s'érode pas davantage. Le président a mentionné trois choses. La première chose à faire est de construire une infrastructure de qualité. Actuellement, l'Indonésie mène activement le développement des infrastructures pour encourager la croissance économique en créant de nouveaux centres économiques, y compris dans les régions éloignées. La deuxième chose, l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et la troisième, est le développement des énergies renouvelables doit être développé. Le ministre de l'Agriculture enregistre des exportations de produits d'élevage vers le Japon. Le ministre de l'Agriculture, Mentan Shahrul Yassin Limpo, a publié 6 conteneurs contenant 64,77 tonnes de produits de volaille transformés et 10 conteneurs contenant 200 tonnes d'aliments pour animaux destinés à l'exportation sur le marché japonais et la République démocratique du Timor-Oriental. Les produits de l'élevage exportés d'Indonésie ont atteint 2,51 milliards de roupies. Comme on le sait, le Japon est connu pour ses normes très strictes en matière de sécurité alimentaire. Shahrul à Jakarta, la semaine dernière, a expliqué qu'il était également très optimiste quant à l'amélioration des performances à l'exportation des produits de l'élevage dans le pays. En plus de créer des opportunités et des solutions pratiques pour les agriculteurs afin de créer un climat et un environnement meilleurs pour la croissance et le développement des entreprises d'élevage. Shahrul espère que les activités d'exportation pourront devenir un effort logique présenté par le gouvernement pour élargir le marché d'exportation des produits de volaille transformés et des aliments pour animaux en Indonésie. Le développement du tourisme à Borobudur doit renforcer la coordination. Le développement du tourisme à Borobudur est jugé nécessaire pour renforcer la coordination entre diverses institutions liées, notamment en impliquant les gouvernements locaux et bien entendu la communauté environnante dans la gestion de la principale région touristique. Le vice-président de la commission de la Chambre des représentants d'Ise, Abdul Fikri Faki, a souligné dans le communiqué reçu lundi la difficulté de synchroniser et de coordonner l'autorité de Borobudur, BOB, et les organes de gestion sous-développés, ce qui a entraîné un manque d'implication des gouvernements et des communautés régionales dans la gestion de la zone touristique de Borobudur. Il a ajouté qu'avec la synchronisation et la coordination, on espérait que la région de Borobudur pourrait générer des avantages économiques pour la communauté environnante. Comme On le sait, Fikri a dirigé vendredi l'équipe de visite spécifique de la commission 10 du Parlement indonésien dans le cadre de l'examen de la zone touristique de Borobudur dans la région de Magelang, dans la province de Java centrale, 22 novembre. Lors de la visite, Putrana Baban, membre de la commission 10 de la Chambre des représentants, a déclaré que de nombreux défis et problèmes devaient encore être améliorés en ce qui concerne la gestion de la zone touristique de Borobudur en tant que destination touristique nationale et internationale. Le ministère de l'Industrie organise une exposition sur l'industrie des aliments et des boissons. Le ministère de l'Industrie organise l'exposition du secteur des aliments et des boissons de 2019 au ministère de l'Industrie du 25 au 29 novembre 2019 dans le but de faciliter la promotion des produits de l'industrie des aliments et des boissons en Indonésie et à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré lundi le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Dwi Hajono, à Jakarta. Selon Sigit, l'industrie des aliments et des boissons sont le secteur important qui soutient l'industrie de la transformation non pétrolière et non gazière. Ce secteur a contribué pour plus d'un tiers, ou 36,49%, du produit intérieur brut PIB de l'industrie de transformation non pétrolière et non gazière jusqu'au troisième trimestre de 2019. Chers amis, c'était les nouvelles. Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le commentaire d'aujourd'hui avec moi Audrey. Le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Le gouvernement lance un discours sur l'abolition, permis de construire, IMB et AMDAL, analyse d'impact sur l'environnement ». Serge Lutard, Sofiane Djalil, ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, Agence nationale des terres, ATR, BPN, a prononcé un discours sur la suppression du permis de construire IMB et l'analyse d'impact sur l'environnement AMDAL lors de la commémoration de la Journée de l'espace. Le gouvernement a pris la suppression de IMB et AMDAL comme une forme de simplification des permis qui devrait faciliter les investissements. Le discours a été répété à nouveau par le sous-ministre d'ATR Surya Chandra au Parlement à Jakarta le mardi 19 novembre 2019. Surya Chandra a expliqué que le gouvernement préparait actuellement un plan spatial détaillé, RDTR. Si le RDTR a été effectué, l'IMB et l'AMDAL ne seront plus nécessaires, car ils y sont déjà inclus. Même dans ce cas, il est reconnu que des mesures d'atténuation doivent encore être prises, car toutes les régions ne sont pas prêtes pour le RDTR. La similitude de qualité des RDTR dans chaque région n'est pas encore certaine. Donc, le processus est encore long. Le gouvernement demande toujours l'avis de tous les intervenants. Iskandar Simorangkir, député chargé de la coordination macroéconomique et financière auprès du ministère chargé de la coordination, a déclaré que le plan s'inscrivait dans le cadre de la législation, loi Omnibus. Ceci est indiqué dans le projet de la loi sur l'emploi RU qui résume plus de 70 lois. Le projet de loi Omnibus devrait être entre les mains de la législature avant le 12 décembre 2019. Au cours de cette courte période, diverses réactions de la communauté se sont manifestées contre l'élimination prévue de l'IMB et de l'AMDAL. Au moins, cette organisation non gouvernementale active dans ces domaines de l'environnement et de l'aide judiciaire ne sont opposées au plan du gouvernement. Il est préférable que le gouvernement attende et écoute les aspirations de la communauté avant de retirer l'IMB et l'AMDAL pour des raisons d'investissement. La réglementation ne devrait pas entraver le développement. Au lieu de cela, les réglementations doivent soutenir et rendre les activités des développements utiles et sûres pour la communauté. S'il est estimé que l'IMB et l'AMDAL entravent les investissements, ceux-ci devraient être réexaminés et, si nécessaire, réviser de manière à continuer à mettre en place des contrôles de la sécurité, de la communauté et de l'environnement. Le règlement devrait être conçu de manière à fermer l'espace de la corruption et des abus d'autorité qui ralentissent la bureaucratie, parce que ce sont les pratiques illégales qui font appel à la réglementation qui freine les investissements. Chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 26 novembre 1922, Howard Carter est la première personne à entrer dans la tombe Tutankhamon. Depuis que Howard Carter a découvert la tombe Tutankhamon le 26 novembre 1922, Tutankhamon est devenu une icône populaire de la civilisation égyptienne antique. Il est enterré dans une tombe relativement petite pour son statut. La momie du roi Tutankhamon se trouve encore dans sa tombe dans la vallée des rois. Le 4 novembre 2007, 45 ans après la découverte de Carter, la tombe du pharaon a été exposée dans une tombe souterraine à Luxor. Nebkhepepure Tutankhamon était la pharaon de la 18e dynastie d'Égypte qui a eu gouverné 1333 jusqu'à 1324 avant Jésus-Christ dans une période appelée le Nouvel Empire d'Égypte. Le 26 novembre 1990, après plus de 30 ans au pouvoir, Lee Kuan Yew a été remplacé par Goh Chok Tong. Lee Kuan Yew était premier ministre de Singapour de 1959 jusqu'à 1990. En 1954, Lee et son groupe en Angleterre ont formé le Parti d'Action Populaire afin d'encourager la mise en place du gouvernement souverain à Singapour afin que colonialisme britannique prenne fin. 5 ans plus tard, en 1959, Lee a été élu premier ministre de Singapour, remplaçant David Saul Marshall, l'ancien ministre en chef de Singapour. Le 26 novembre 1990, Lee Kuan Yew a été remplacé par Goh Chok Tong. Pendant le règne de Goh Chok Tong, Lee a occupé le poste de ministre principal. Le pont Kutai Kartanegara est le pont qui traverse la rivière Mahakam. Il est le plus long pont suspendu d'Indonésie. La longueur du pont atteint 710 mètres avec une zone dépendante sans support atteignant 270 mètres. Ce pont est un moyen de liaison entre la ville de Tenggarong et le sous-district Tenggarong Seberang qui mène à la ville de Samarinda. La construction de ce pont a été commencée en 1995 et s'est achevé en 2010. Le 26 novembre 2011, le pont Kutai-Kartanegara s'est effondré. Des dizaines de véhicules sur le pont ont plongé dans la rivière Mahakam, faisant 21 morts et des dizaines blessés. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Bijou de cœur » chantée par Harvey Malioholo. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, écoutons maintenant Mon Indonésie. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée « L'Indonésie et Djibouti Business Connect » ont été lancés en tant que forum de communication entre l'Indonésie et l'Éthiopie. Pour faciliter la coopération entre l'Indonésie et Djibouti, un forum appelé « Indonésie-Djibouti Business Connect » a été lancé. Ce forum est un forum de communication et d'information rapide qui mobilise la connectivité et la mise en œuvre de la coopération économique via des applications de médias sociaux en temps réel. Indonésie-Djibouti Business Connect a été lancé par l'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, à Djibouti et l'Union africaine, Al-Bushra Basnour, lors d'un séminaire intitulé « Indonésie Economic Update » organisé par l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Kadin de Djibouti le 19 novembre 2019. En outre, le lancement de l'Indonésie et Djibouti Business Connect est également dû au fait que la plupart des entrepreneurs indonésiens et Djiboutiens ne connaissent pas encore très bien sur le potentiel de coopération économique qu'ils pourraient explorer et développer afin de renforcer la coopération économique bilatérale. Le séminaire a été assisté par environ 50 hommes d'affaires djiboutiens, y compris le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, et Badul Hassan, l'homme d'affaires et ancien ministre de Djibouti. Trois hommes d'affaires indonésiens ont également participé au séminaire économique par vidéoconférence tels que Ahmad Nusolahardo de PT BHITEX, Kemas Ahmad Mujoko de PT Rahasia Dana Berkelanjutan, et Tan Yanto Hendrawan de CP Banjar Usaha Sukses. Outre la vidéoconférence, cet événement est également diffusé en direct, participé par des entrepreneurs indonésiens de différentes villes et régions. L'Indonésie et Djibouti ont établi des relations diplomatiques en 1979 et se sont développées rapidement. Dans le domaine économique, en 2018, la valeur du commerce bilatéral des deux pays s'élevait à 211,5 millions de dollars américains, soit un excédent de 99% pour l'Indonésie. Djibouti est devenu un pays important pour l'Indonésie et divers autres pays du monde en tant que principal point d'entrée pour les exportations vers de nombreux pays d'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie. Chers amis, c'était Mon Indonésie.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indah karirmu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Oh, mampukah kita bertahan di saat kita jauh?
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan?
Hanya kau yang benar-benar aku tunggu, hanya kau yang... tangguh karirmu untuk selalu kuandalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, selalukah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée « Comment approprier » chantée par Gamaliel Audrey Chantika. Et vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Irnésie au monde. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Cultural.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant le lac Gelis Kauripan à Java West. Voyager dans la province Java Occidental, la région Bandung West, peut être votre destination touristique. Il existe diverses attractions touristiques intéressantes, telles que la cascade Cimahi, la grotte Pawon, le village de bambou, la cascade Tilu et le lac Gelis Kauripan. Nous vous invitons à découvrir l'un des attraits de la région de Bandung West, le lac Gelis Kauripan. Situé à Cilangkop, village Ganjarsari, Cikalong Wetan, en région Bandung West, cette destination touristique possède une piscine provenant de sources naturelles de montagne. Pour entrer dans cette zone touristique, il vous suffit de payer un billet d'entrée de 10 000 rupiah par personne. Entrez dans cette zone touristique. Vous y sentirez l'air frais, car les arbres de cette zone sont assez ombragés. L'atmosphère fraîche avec le son des cascades ajoute à la beauté du lac Gelis Kauripan. Dans cette attraction touristique, trois piscines peuvent être utilisées pour la baignade ou la natation. Deux piscines naturelles sont formées de roches et une autre, une piscine sportive d'une profondeur de 1 à 1,5 mètres qu'il a rend sûr pour les enfants. L'eau de la piscine du lac Gliscauripan est claire et fraîche, ce qui permet de voir clairement le fond de la piscine. Les habitants croient qu'en se baignant dans le lac Gliscauripan, on peut soigner diverses maladies et freiner le vieillissement de la peau. Le mot Sendang Gliscauripan signifie un beau lac qui donne la vie. Cette source d'eau constitue en effet un support pour la vie de la communauté environnante. L'eau sert à la vaisselle pour irriguer les jardins des résidents. Aujourd'hui, le lac Gliscauripan ne sert pas seulement à répondre aux besoins des citoyens, il est également devenu l'une des principales destinations de la région Bandung-Ouest. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidèle attention. Au revoir.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Je l'aime » chantée par Elva Singer. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Et chers amis, écoutez maintenant la rubrique « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'Indonésien ». Avec moi, Audrey. Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa suhunya? Berapa suhunya? Ou en langue française, quelle est la température? Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation ayant pour titre Berapa suhunya? Berapa suhunya? Ou en langue française, quelle est la température?
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui. Berapa suhunya? Berapa suhunya? En français, quelle est la température? Bon, je vais prononcer deux fois comme d'habitude et vous pouvez répéter après moi. Suhu. Suhu. En français, la température. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Signifie quelle est la température? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. En français, 30 degrés Celsius. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Quelle est la température à Londres en été? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. En français, autour de 23 degrés. Chers amis, quand on parle de la météo, quelqu'un veut parfois connaître la température actuelle. Pour connaître la température, tout en parlant, demandez Berapa suhunya? Berapa suhunya? En français, quelle est la température? Si vous voulez connaître la température d'une ville ou d'un pays au cours d'une certaine saison, posez des questions. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? En français, quelle est la température à Londres en été? Bon, l'autre exemple. Berapa suhu udara pada musim dingin? Berapa suhu udara pada musim dingin? En français, quelle est la température en hiver? Si vous connaissez la température de l'air avec certitude, dites la température. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, utilisez le mot « sekitar ».« Sekitar ». En français, « autour de ». Ou « kurang lebih ».« Kurang lebih ». En français, « plus ou moins ». Par exemple, « berapa suhunya ?»« Berapa suhunya ?» En français, « quelle est la température ?» ?»« Kurang lebih 23 derajat ». Kurang lebih 23 derajat. En français, plus ou moins 23 degrés. Serge Littar, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. Pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Bonne écoute.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. On se rencontre demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Un rêve » chantée par Anggun. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord magazine musical.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Dans cette édition, nous présentons une chanson malaise intitulée « Keluhan Jiwa » qui a été chantée par Haja Nur Ainun. Chers auditeurs, la chanson intitulée « Keluhan Jiwa » a été composée par M. Natsir Nasution. Les paroles sont vraiment poétiques, contenant des plaintes ou de lamentation d'une âme triste à cause du manque de son amour. Cette chanson est assez intéressante du point de vue du tempo de la musique, car tout au long de la chanson, certaines parties ont un tempo lent et certaines parties de la chanson ont un tempo rapide. La chanson intitulée « Keluhan Jiwa » ou en français « La plainte d'âme » est l'une des chansons les plus connues de Nur Aynun. La chanteuse, qui s'appelle familièrement Aynun, est née le 7 novembre 1935 à Stabat, Langkat, Sumatra du Nord. Aynun peut non seulement chanter des chansons malaises, mais elle a également chanté des chansons arabes, indiennes et autres. Bon, chers auditeurs, voici la chanson dont le titre est « Keluhan Jiwa » ou en français « La plainte d'âme » chantée par Hajjah Nur Aynun.
Thank you. tak tahan menanggung rindu.
Chers auditeurs, auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.